le rendez-vous d'Amnesty International.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio FM+, et vous écoutez Amnesty International. Et aujourd'hui, on va revenir sur les termes de crimes de guerre, de terrorisme, de crimes contre l'humanité, qui sont des termes qui sont assez flous finalement, quand on s'y intéresse un petit peu de près. On voit bien qu'à chaque fois qu'il y a un conflit, à chaque fois qu'il y a une guerre qui se déclenche, les débats font rage sur le champ lexical qui est utilisé et ça rappelle l'importance des mots et de leur usage. Chez Amnesty International, pour parler d'un conflit, de ses acteurs ou des violations des droits humains, notre seule boussole, ça reste le droit international, donc les conventions de Genève et de La Haye, le statut de Rome, la Cour pénale internationale, etc. Mais du coup, quelle est la réalité juridique qui se cache derrière les mots qui entourent les conflits? Premièrement, on va parler de crimes de guerre. Donc les crimes de guerre sont des violations du droit international humanitaire, et plus particulièrement ce que l'on appelle des lois et coutumes de la guerre définies par les conventions de Genève et les conventions de La Haye. Il s'agit donc de crimes qui sont commis à l'encontre de civils et plus largement à l'encontre de toutes les personnes ne participant pas directement aux hostilités à l'occasion d'un conflit armé international ou non international. Les crimes de guerre comprennent notamment les attaques délibérées contre des civils, la torture, le meurtre ou les mauvais traitements infligés aux prisonniers de guerre, les pillages et les destructions de biens civils, la prise d'otages ou encore les violences sexuelles. Donc, qualifier un acte de crime de guerre ne sous-estime certainement pas ni ne banalise les violences par rapport à d'autres qualifications juridiques ou infractions comme le crime de torture. Le crime de guerre est une violation grave du droit international humanitaire pour laquelle les auteurs encourent une responsabilité pénale personnelle au regard du droit international. Ensuite, on a ce qu'on appelle le crime contre l'humanité. Tandis que le crime de guerre est toujours commis dans un contexte de conflit armé, l'infraction de crime contre l'humanité, elle, s'applique également en temps de paix. Un acte est qualifié de crime contre l'humanité lorsqu'il est commis dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute une population civile et en connaissance de cette attaque. La définition du crime contre l'humanité englobe entre autres les disparitions forcées, les homicides, la réduction en esclavage, la déportation ou le transfert forcé de population, l'emprisonnement ou toute forme de privation grave de liberté physique, le viol, l'esclavage sexuel ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable. Et enfin, nous avons le crime de génocide. Ce crime, il est commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux. Les actes constitutifs du génocide sont le meurtre de membres du groupe, l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale des membres du groupe, la soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe et le transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et le crime de génocide relèvent tous les trois du droit pénal international. La Cour pénale internationale a été créée spécialement pour avoir à juger les auteurs de tels crimes. Dans nos rapports à Amnesty International, nous, on établit des faits en toute indépendance et en toute objectivité, justement pour permettre d'établir des faits et d'alerter l'opinion publique, de faire pression sur les autorités pour que les violations des droits humains cessent, et surtout pour que les auteurs de crimes les plus graves rendent des comptes devant les juridictions compétentes, notamment la Cour pénale internationale, et ainsi que les victimes obtiennent justice et réparation. Donc les éléments de preuve expertisés par nos chercheurs et nos chercheuses et qui sont publiés dans nos rapports peuvent en fait être utilisés par la Cour pénale internationale. Que ce soit en Israël ou dans les territoires palestiniens, en Ukraine ou en Éthiopie, les civils sont les premières victimes des conflits armés. Chaque jour, Amnesty International met en lumière les atrocités cachées de ces conflits. Parce qu'effectivement, ensemble on ne révèle pas ces crimes de guerre, qui va le faire? Le droit international humanitaire distingue d'ailleurs deux types de conflits armés. Il y a le conflit armé international qui oppose deux États ou plus et qui inclut les cas d'occupation militaire de tout ou une partie du territoire d'un État, ainsi que les cas de guerre de libération nationale. Le conflit armé non international, qui oppose sur le territoire d'un seul État les forces armées régulières à des groupes armés dissidents ou des groupes armés entre eux. On a également ce qu'on appelle les lois et coutumes de la guerre, qui fait partie de notre attirail juridique, qui nous permet notamment de faire nos rapports et de participer à la condamnation de certains auteurs. Toute partie au conflit a l'obligation de respecter les lois et les coutumes de la guerre, autrement dit le droit international, et ce quel que soit son statut. Le droit international humanitaire est un ensemble de règles qui, pour des raisons humanitaires, cherche à limiter les effets des conflits armés. Il protège les personnes qui ne participent pas ou plus au combat et restreint les moyens et les méthodes de guerre, notamment pour protéger les civils. Le droit international humanitaire se trouve essentiellement dans les quatre conventions de Genève de 1949, mais il y a aussi une partie dans les deux protocoles additionnels de 1977 relatifs à la protection des victimes des conflits armés. La quasi-totalité des États dans le monde est aujourd'hui liée par ces conventions et leurs textes additionnels. Le droit international humanitaire s'applique uniquement aux conflits armés et ne couvre pas les situations de tensions internes ou de troubles intérieurs comme les actes de violence isolés. Il s'applique seulement lorsqu'un conflit a éclaté et de la même manière pour toutes les parties, quelle que soit celle qui a déclenché les hostilités. Alors terrorisme, groupe terrorisme ou acte terroriste, tout ça, vous l'avez toujours pas entendu dans ce qu'on appelle le droit international humanitaire. Et depuis des décennies, la question de la définition du terrorisme au niveau international fait débat et cristallise des désaccords entre les gouvernements. Au niveau international, il n'existe en fait aucune définition reconnue et communément adoptée. Amnesty International n'utilise donc pas le terme de terrorisme parce qu'il n'a pas de définition reconnue au niveau international et il sert dans la pratique à désigner des comportements totalement différents selon les États, les gouvernements, etc. Afin de conserver son impartialité, notre mouvement se défend donc de désigner comme terroriste tel ou tel acteur, car il n'existe au niveau international aucune règle de droit international permettant de désigner de façon objective un acteur comme terroriste. Ce terme désigne habituellement les actes de violence commis par des groupes armés, et plus particulièrement ceux visant les civils. Dans la pratique, il sert à désigner des comportements totalement différents. Les États et les observateurs qualifient de terroristes les actes ou les motivations politiques auxquelles ils sont opposés, tout en rejetant l'utilisation de ce terme quand il s'applique à des activités ou à des causes qu'ils soutiennent. Cela est souvent exprimé d'ailleurs par la phrase suivante « Celui qui est un terroriste pour certains est un combattant de la liberté pour d'autres ». Cette question, qui est très controversée, a été abordée sous des angles si différents et dans des contextes si divers que jusqu'à présent, il a été impossible à la communauté internationale d'arriver à une définition généralement acceptable. Les tentatives récentes des Nations Unies pour une convention internationale globale sur le terrorisme n'ont absolument pas abouti, en partie d'ailleurs à cause de désaccords entre les gouvernements sur la définition de ce terme. Et c'est la raison pour laquelle Amnesty International continuera de parler de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, parce que, en fait, tout simplement, ce sont des termes juridiques qui nous permettent de qualifier des actes qui seront ensuite potentiellement reconnus par la Cour pénale internationale et qui donc pourront entraîner des sanctions. Quand on parle de terrorisme, on ne peut pas entraîner de sanctions à la Cour pénale internationale. On peut en avoir dans le droit français parce que le terrorisme est défini par le droit français, c'est une des définitions les plus précises du monde d'ailleurs, mais dans le droit pénal international, on ne pourra pas avoir de condamnation concernant le terrorisme. Donc, Amnesty International essaie tant bien que mal d'utiliser le mot terrorisme le moins possible. On l'a déjà utilisé pour le mouvement Boko Haram, et c'était une erreur de la part d'Amnesty International, mais aujourd'hui, les juristes ont revu leur position, notamment à l'international, pour se conformer uniquement aux condamnations qui sont reconnues par la Cour pénale internationale. Et en parlant condamnations, nous avons une campagne qui commence aujourd'hui, le 1er décembre 2023, qui s'appelle les 10 jours pour signer et qui essaye de faire en sorte de condamner justement les auteurs de crimes de guerre ou bien de protéger des personnes militantes qui sont en prison pour leurs opinions politiques. Les 10 jours pour signer, c'est une action internationale qui rassemble tous les groupes d'Amnesty International depuis plus de 20 ans chaque année en décembre autour de la Journée internationale des droits de l'homme, le 10 décembre. Amnesty International France concentre son action en faveur de personnes ou de groupes de personnes en danger et Amnesty International en général. Ces personnes, leurs droits ont été violés et Amnesty se mobilise pour dénoncer leur situation et améliorer au plus vite leurs conditions. Ces situations sont emblématiques des combats que nous menons dans la durée à travers le monde. Et c'est avant tout, les 10 jours pour signer, une campagne mondiale d'Amnesty International. En 2022, 67 sections nationales d'Amnesty International ont mené près de 5 millions d'actions. Donc signatures de pétitions, actions de solidarité, lettres d'interpellation des autorités, etc. Et ce, à travers le monde, pour les 10 situations qui ont été défendues l'année dernière. En France, on a environ 95 000 personnes qui se sont mobilisées et qui ont réalisé 640 000 actions pour ces femmes et ces hommes qui étaient en danger. Cette année, notre campagne de signature se déroulera du 1er au 10 décembre 2023 et ce sera l'occasion de militer pour 10 nouvelles situations de violation des droits humains. Discrimination, impunité, violence sexuelle et sexiste, accusations sans preuve, exil forcé, autant de situations insoutenables sur lesquelles nous devons nous mobiliser. L'action est pour nous la meilleure forme de défense. En portant les pétitions haut et fort, nous changeons concrètement leur histoire. Alors la campagne 10 jours pour signer, ça a commencé il y a une vingtaine d'années, le 10 décembre 2001 à Varsovie en Pologne. Il y a des militants et des militantes d'Amnesty International qui étaient révoltés par les violations des droits humains à travers le monde, qui ont décidé de mener une action d'envergure. Durant 24 heures, ils écrivent 2000 lettres en faveur d'hommes et de femmes en danger et les envoient au gouvernement des États responsables de ces injustices. L'événement est repris mondialement, l'esprit de la campagne de signature appelée 10 jours pour signer ces dernières années est donc né. Depuis, chaque année, autour de la Journée internationale des droits de l'homme qui a lieu le 10 décembre, des millions de personnes se battent contre l'injustice partout dans le monde. Avec la ferme conviction qu'une lettre, une signature ou un message sur les réseaux sociaux peuvent changer les choses, ces hommes et ces femmes se mobilisent pour mettre fin aux violations des droits humains et pour montrer leur solidarité avec celles et ceux dont les droits ont été bafoués. Et effectivement, ces messages, ces lettres, ça marche, puisque par exemple, on a Cecilia Chimbiri et Johanna Mamombe, qui étaient deux militantes du Zimbabwe qu'on a défendues en 2022. Elles avaient été enlevées, battues et agressées sexuellement en mai 2020 à Harare à la suite de manifestations contre les manquements du gouvernement en matière de politique sociale pendant la pandémie de Covid-19. Elles ont été inculpées d'infractions pénales, accusées d'avoir menti, elles ont été placées en détention et Amnesty International les a fortement soutenues, notamment lors de leur procès, et a mobilisé la solidarité locale et internationale en leur faveur. Donc ça a fait quand même plus de 500 000 personnes dans le monde qui ont signé la pétition pour demander justice pour Cecilia et Johanna et défendre le droit de manifester. Ainsi, le 4 juillet 2023, Cecilia Chimbiri et Johanna Mamombe ont été acquittées par la Cour suprême d'avoir diffusé des fausses informations sur leur disparition forcée. Cette année, on a des nouveaux cas pour les 10 jours pour signer. Je vais vous en parler de quelques-uns. Tout d'abord, Tulani Maseko, qui vient de l'Eswatini. Il a été assassiné pour son engagement en faveur des droits humains. Ses proches demandent justice. Avocat et défenseur des droits humains, Tulani Maseko s'est battu sans relâche pour faire de l'Eswatini un pays plus libre. Tulani a ouvertement critiqué les lois répressives et la violence dont l'État faisait usage pour étouffer les manifestations pacifiques. En 2014, il a été arrêté et inculpé d'outrage à l'autorité judiciaire après avoir écrit 2 articles dénonçant le manque d'indépendance de la justice. Il présidait un réseau de partis politiques et d'organisations de la société civile réclamant des réformes démocratiques dans son pays lorsqu'il a été abattu le 21 janvier dernier par des tireurs inconnus. Quelques heures auparavant, le roi avait prononcé un discours affirmant qu'on s'occuperait des personnes réclamant une réforme démocratique. Aucune enquête impartiale et indépendante n'a été menée depuis pour identifier et traduire en justice les auteurs de ce crime. Amnesty International, à travers cette pétition, demande aux autorités d'Eswatini de mettre en place une enquête efficace sur l'homicide de Tulani Maseko et de traduire en justice les suspects dans le cadre d'un procès équitable, et également de donner accès à la famille de Tulani Maseko à la justice et à des recours effectifs. Deuxième cas, on a Wadwam Pabai Pabai et Wadwam Paul Kabai, qu'on va appeler Uncle Pabai et Uncle Paul, qui viennent d'Australie et qui risquent de tout perdre à cause du dérèglement climatique et de l'inaction de l'État. Pour que l'État australien reconnaisse sa responsabilité dans la crise climatique qui frappe les îles du détroit de Torres et agisse concrètement pour protéger leurs terres, Uncle Pabai et Uncle Paul, chefs des Premières Nations, se sont lancés en octobre 2021 dans une action légale historique contre le gouvernement de l'Australie pour leur inaction face au dérèglement climatique. Dans le détroit de Torres, le niveau de la mer augmente deux fois plus vite que la moyenne mondiale, ce qui remet en cause les droits à l'autodétermination, à l'éducation ou encore au logement des peuples autochtones qui y résident depuis des siècles. Pour préserver les droits et les terres de leur communauté, Uncle Pabai et Uncle Paul entrent dans la deuxième phase de leur procès entre le 6 et le 27 novembre 2023, avant que la décision de la justice ne soit donnée en 2024. Amnesty International demande donc aux autorités australiennes de mettre en place des actions urgentes contre le dérèglement climatique. Si vous voulez en apprendre plus sur la campagne 10 jours pour signer et découvrir les 8 autres cas que nous allons prendre en charge cette année, je vous invite à aller sur notre site amnestyinternational.fr et dans la foulée signer toutes les pétitions des 10 jours pour signer. Ça prend pas beaucoup de temps. Et ça permettra peut-être de sauver certaines personnes. Moi, je vous souhaite un bon week-end sur Radio FM+, et à la semaine prochaine.